France Culture.
Talmudique. La semaine dernière, nous avons reçu dans Talmudique le rabbin Delphine Horviller et évoqué avec elle le sens des jours redoutables, Yamim Noraim en hébreu, ces jours qui inaugurent la nouvelle année, à savoir les deux jours de Rosh Hashanah, le nouvel an, et le jour de Kippour, 10 jours plus tard, jour du grand pardon que nous avons exploré et dont nous avons montré les harmoniques autour des thèmes du retour, du questionnement, de l'amour et respect du prochain et du rituel de Shofar. Nous allons cette semaine explorer avec le rabbin Yann Boissière les jours qui clôturent ce mois inaugural de la nouvelle année, des jours organisés en un temps de rendez-vous autour du rituel de la Souka, cette cabane recouverte d'un toit de feuillage dans laquelle se déplace toute la vie domestique, des repas aux nuitées passées à la belle étoile, car il est essentiel que les étoiles soient visibles à travers le feuillage. Un temps de rendez-vous qui est aussi le temps d'un autre rituel, celui du loulav, un bouquet composé d'une branche de palmier fermée, de branches de saule et de myrte et d'un cédra, bouquet que l'on agite en pointant les 4 points cardinaux, le ciel et la terre, et dont la signification, incessamment renouvelée, donne un charme particulier à ce rituel. Un temps de rendez-vous qui trouve son apogée dans une nuit d'études et le recommencement de la lecture de la Torah à la synagogue. Rabbin Yann Boissière, bonjour.
Bonjour.
Rabbin Yann Boissière, c'est un grand plaisir de vous recevoir à nouveau dans Talmudique. Je rappelle que vous êtes rabbin dans le cadre du courant judaïsme en mouvement, JEM, fondateur de l'association Les Voies de la Paix, secrétaire général de l'IHEMR, Institut de Hautes Études du Monde Religieux, auteur de nombreux ouvrages remarquables, dont le dernier intitulé « Le devoir d'espérance, faire face à la crise spirituelle » paru chez De Clé de Brouwer en 2024, et on avait eu la chance de vous recevoir à cette occasion. Rabbin Boissière, j'ai parlé en introduction de temps de rendez-vous. En d'autres temps, j'aurais parlé de fête de Soukhot et de fête de Simchat Torah, qui sont les noms de ces jours de rendez-vous. Mais peut-on, en ces temps qui sont les nôtres, parler encore de fête, alors que tout notre monde n'est pas à la fête, que le premier jour de cette fête de Soukhot tombe cette année, le 7 octobre, que les guerres continuent dans le monde et particulièrement au Proche-Orient, que l'antisémitisme semble grandir de jour en jour, en un mot, que nous sommes en des temps particulièrement sombres, des temps d'inquiétude, Yann Boissière.
Oui, la question est plus que pertinente. L'actualité nous montre des horreurs qui s'empilent, qui s'entassent chaque jour. Le mot de rendez-vous hein, qui qualifie certaines des fêtes juives en hébreu, c'est moed. Moed, donc on traduit en général par rendez-vous, et contient la racine ed, témoigner. Donc ce sont des temps effectivement de rendez-vous entre les créatures et notre Dieu, mais aussi des temps de témoignage, où il faut donc s'interroger sur le monde qui nous entoure et témoigner de certaines valeurs tout en le confrontant à des choses parfois effectivement contradictoires. C'est très intéressant parce que dans la paracha de la semaine, c'est-à-dire cette section de la Torah que l'on lit, ce petit bout de Torah que l'on lit chaque semaine, justement on nous demande d'être dans la joie. C'est assez contradictoire, c'est une injonction d'être dans la joie. Ve'avata et Adonai besimcha, tu rendras un culte à ton Dieu, tu aimeras ton Dieu dans la joie. Et c'est contradictoire, évidemment les commentateurs ne manquent pas de relever cette contradiction, et il y a une conversation intéressante à quelques siècles de distance entre Rashi, qui a vécu au XIe siècle en France, ce champenois merveilleux, commentateur de la Torah, qui disait oui, bah c'était ce temps qui est décrit là, s'adresser aux enfants d'Israël quand ils étaient dans le désert, parce qu'il y avait des raisons objectives de se réjouir. L'environnement était propice, on pourrait dire le désert apparemment, et justement, il n'y avait pas d'interférence, il n'y avait pas de guerre, c'était un milieu, somme toute, entièrement spirituel que celui des Bnei Israël, des Israélites à l'époque. Et donc, il y avait une raison d'être dans la joie. Maïmonide s'y oppose en disant quelque part que la joie est une disposition intérieure qui doit justement se manifester indépendamment des événements. C'est peut-être ça que nous demande le judaïsme. Le judaïsme nous dit de ne pas sombrer dans le désespoir. Rabbi Nachman de Bratslav a beaucoup de phrases là-dessus en disant c'est une obligation d'être dans la joie et c'est la définition de l'espérance. Vous avez mentionné mon livre Le devoir d'espérance. C'est la définition que je donne volontiers de l'espérance, loin des grandes attentes eschatologiques ou autres. C'est simplement, comme le dit cette phrase de Camus, le devoir à chaque instant de consentir à la meilleure part de soi-même. On est constamment tiraillé entre le désespoir auquel logiquement on pourrait aller se laisser aller étant donné les événements, mais justement cette résistance, eh bien non, j'ai aussi une part merveilleuse, chacun a en lui une part merveilleuse, et c'est celle-là qu'il s'agit de faire prévaloir, parfois même en se forçant un peu.
Question corollaire à ma question précédente, comment le rabbin que vous êtes, comprenez-vous, analysez-vous ces temps que nous traversons et comment vous en parlez actuellement à vos fidèles, rabbin Boissière ?
Oui, c'est une question difficile. Il y a tellement de phénomènes, y compris négatifs, qui se déroulent devant nous. Je dirais que d'une manière générale, c'est un peu ce que j'avais analysé dans le dernier livre, Le Devoir d'Espérance, on vit une crise spirituelle majeure, qui est due, à mon avis, à un facteur bien particulier, qui a des conséquences sur nous-mêmes, c'est la mutation des nouvelles technologies, qui prennent le pas finalement sur des choses intuitives, sur l'humain. On va parler ici des algorithmes, on va parler de tout un tas de choses. Mais je pense que c'est plus qu'une révolution industrielle normale, c'est-à-dire qu'elle est en train de changer notre anthropologie, la manière même dont on se relie les uns des autres et la manière même dont on va chercher l'information dans le monde. L'une des conséquences majeures de ça, c'est que effectivement, on est peu à peu dépossédé des processus humains, on voit dans les processus de décision, on est de plus en plus face à des machines ou à des algorithmes qui réfléchissent à notre place. Et toutes les institutions humaines qui dérivaient, je dirais, naturellement des rapports humains, donc les constructions des partis, enfin la famille, les partis politiques, les institutions politiques, etc., sont remplacées aujourd'hui par des processus abstraits, parce qu'on estime, pour une très mauvaise raison à mon avis, que les data, les données sont plus fiables que nous-mêmes. Voilà qu'on entend des discours négatifs sur l'homme qui n'est pas fiable, qui serait perclus de biais, alors que la machine, elle, ne se fatigue jamais, elle est productive en permanence, etc. Tout un discours comme ça qui dévalorise l'homme, et la crise spirituelle, elle est là. Cette incapacité qu'on a désormais de rentrer en nous-mêmes, de se relier à l'autre et de faire confiance à la relation. On va chercher une espèce de fausse scientificité qui serait à l'extérieur de nous-mêmes, qui serait donnée par les data et qui en saurait plus sur l'homme que nous-mêmes. À mon avis, c'est effectivement complètement mortifère. Ça, c'est vraiment, je crois, le grand paradigme premier. Et puis après, il y a des phénomènes peut-être plus locaux, mais qui sont massifs. Un individualisme forcené, enfin qu'on constate chaque jour, qui a été décuplé après la crise du Covid. Incroyable, cette espèce de passage en force permanent. Ça s'analyse au plus bas du trottoir. Hein. C'est ces gens qui vous passent devant dessus sans vous écraser, jusqu'au niveau géostratégique les plus grands, le retour des empires, la force décomplexée, etc. Donc cet individualisme qui semble vraiment la maladie, enfin qui a toujours été un peu la maladie de bien des sociétés, mais qui semble décupler. Et puis, dans un autre ordre d'idées, mais très préoccupant pour nous et pour tout le monde, pour la communauté nationale, l'antisémitisme, le retour, mais complètement décomplexé, 70 ans après seulement la Shoah. Enfin, il faut toujours reposer les perspectives avec un discours décomplexé, évidemment instrumentalisé par certains hommes politiques, le conflit du Moyen-Orient, dont je disais encore il y a 2-3 ans qu'il était illégitime de l'importer. Mais aujourd'hui, je dis que ma propre position est une position naïve. De toute façon, il n'est plus question de récuser cette importation. Elle a lieu tous les jours. D'abord parce que certains l'instrumentalisent de manière consciente. Et puis, c'est le nouveau monde connecté dans lequel on vit. Il n'est plus possible de séparer. Avant, il y avait des nations, il y avait des problématiques intérieures à chaque nation. On pouvait relativiser les choses. Aujourd'hui, plus du tout. L'antisémitisme est mondial, décomplexé. Je dirais 3 des problèmes principaux. La crise spirituelle profonde, l'individualisme forcené et l'antisémitisme. Évidemment, ces 3 sujets ont des liens entre eux, ont des ponts entre eux. Mais pour caractériser les choses, voilà un peu les 3 domaines de préoccupation forts.
Justement, dans le cadre de ces préoccupations, un rabbin est un guide pour sa communauté qui souvent attend des réponses, même sous forme de questions. Que dites-vous à votre communauté pour accompagner ces temps inquiets, pour les traverser, pour continuer à espérer ? Comment, rabbin Yann Boissière, mettiez-vous en œuvre le devoir d'espérance qui est le titre de votre dernier ouvrage ?
Alors c'est difficile, il y a plusieurs stratégies pour ça, c'est intéressant parce que les rabbins, ne serait-ce que dans la galaxie de judaïsme en mouvement, les rabbins libéraux en général, mais j'imagine que c'est vrai de tout rabbin, ont des stratégies différentes qui sont liées aussi à leur personnalité. Certains vont plus parler politique, d'autres vont coller à l'actualité pour essayer d'extraire quelque chose. Moi j'aime à penser que la Torah est un livre éternel, qui parle des choses premières, comme disait Lévinas, c'est-à-dire des choses éternelles, qui sont parfois inactuelles, mais c'est l'essentiel actuel l'actualité des choses inactuelles. Elle nous parle de l'homme, et l'homme n'a pas tellement changé, et c'est incroyable, chaque semaine, évidemment, c'est la tâche du rabbin de produire un sermon sur la section de la semaine, la paracha de la semaine, de voir combien la Torah est pétrie de choses essentielles sur l'homme. Une chose propre à l'histoire juive, je dirais, c'est la résilience, le principe même de la résilience juive. Je crois que dans l'émission précédente, avec ma collègue Delphine Orvilleur, vous avez parlé de Jacob et d'Israël. Il y a quelque chose de très intéressant, qui dit quelque chose de l'identité multiple d'Israël et de la souplesse et de sa capacité d'adaptation, et qui nous dit quelque chose de la résilience juive, justement, dans des temps sombres. Entre parenthèses, je crois qu'il faut être aussi très modeste. C'est vrai que les temps actuels sont difficiles, mais quand, malheureusement, on enterre des personnes qui sont nées en 1920, 1930, qui ont eu à connaître la Shoah, qu'on voit la vie de ces gens-là, de ces mensch, de ces giborim merveilleux, ça nous rend plus modestes. Enfin, il y a eu d'autres périodes, pas si anciennes que ça, absolument terribles, et ces hommes-là ont eu la capacité de, alors même que parfois leur famille était décimée, de reconstruire des familles, d'être dans la joie. Donc, ce sont des exemples absolument merveilleux qui nous rendent à la fois modestes et plein de courage, parce que c'est ce que dit cette résilience de Jacob et d'Israël. En fait, c'est la notion d'alliance. La notion d'alliance, qui est centrale dans la Bible, a été révolutionnaire pour la pensée humaine. C'est-à-dire que dans les religions antiques, on pensait que Dieu était attaché à un peuple et qu'il le favorisait. C'est ce Dieu qui nous fait sortir de la mer Rouge, qui nous fait combattre les Égyptiens, tout va bien, il est de notre côté. Sauf que le jour où il est plus de notre côté, c'est la catastrophe. C'est ce que disaient d'ailleurs les Romains, après avoir s'enorgueillir d'avoir détruit le temple. Eh alors votre Dieu, il est où maintenant, hein? Il a changé de côté, il est de notre côté. Mais la notion d'alliance est révolutionnaire, parce que c'est pas une relation de puissance à vassal, c'est une relation morale contractuelle. C'est-à-dire que le contrat est valable, malgré les événements, et parfois les événements sont dramatiques, ce n'est jamais la fin de l'histoire. Dans la première conception d'un Dieu nationaliste, c'est la fin de l'histoire quand Dieu est plus du bon côté. Mais dans une notion d'alliance, on se remet en question, on dit « Ah bah peut-être que j'ai mal fait les choses et peut-être que j'ai capoté pour cette raison. » Mais l'alliance est toujours là et donc je peux me relever et m'amender et Dieu revenir de mon côté. C'est ce que disent les prophètes. La fameuse Tochecha, dont vous avez parlé, je crois, dans l'émission précédente, la fameuse remontrance, mais toujours suivie de Nechama et en tout cas de la possibilité de s'amender pour poursuivre l'histoire. Aucun événement aussi dramatique soit-il, ne signe la fin de l'histoire. C'est ça que veut dire concrètement la notion d'alliance, et c'est une force, c'est un facteur de résilience extraordinaire. Donc moi je m'emploie, enfin à travers différents commentaires, à transmettre cela dans ma communauté, et c'est vrai que ça fait du bien de retronger dans nos textes, de voir les sources de résilience. Après, il y a des leçons merveilleuses aussi, une leçon pratiquement quotidienne qui je trouve est très actuelle dans la période de surinformation qui nous déprime et qui nous terrasse, parce que quand on entend les nouvelles, on se dit, mais que puis-je faire sur la famine au Soudan, même à Gaza, que puis-je faire tout ça? Personnellement, rien. Enfin, rien de concret, rien d'immédiat. Le schéma Israël, cette prière donc centrale que l'on récite plusieurs fois par jour, Velo Taturu, Ahare Levafrem, Ahare Lehem, Leman Tiskeru. Et vous ne courrez pas, vous ne nourrirez pas exclusivement de vos yeux et de votre cœur pour que vous vous souveniez. Cette phrase, moi, je la trouve fantastique. C'est l'une des plus profondes du judaïsme. Bien sûr, on a besoin de prendre de l'information du monde extérieur, c'est l'information. On a besoin de suivre ses sentiments, de suivre son cœur, etc. Mais c'est pas suffisant, parce que la plupart du temps, ça nous emmène dans le mur, cette histoire-là. Oui. Leman Tiskeru, il y a un autre rapport au monde, c'est le rapport de la mémoire. Et celui-là, il passe par les textes, il passe par l'étude, il passe par une parole plus ancienne que la nôtre et moins immédiate que l'information que l'on récupère à travers nos yeux et nos cœurs. Cette phrase, elle est au cœur du Shema Israël, elle est au cœur de quelque chose de très important. Nous sommes comme des taureaux qui sommes excités à chaque seconde par les chiffons rouges qu'on nous projette à longueur de journée. La résilience juive, elle est aussi là. Bien sûr, il faut s'informer. Bien sûr, il faut être dans la connaissance. Bien sûr, il faut savoir suivre ses passions et son cœur. Mais il y a un autre rapport qui, lui, est stabilisateur, qui donne le fil conducteur de nos vies. C'est le rapport à la mémoire, à l'étude et au texte d'une parole plus ancienne que nous et dont on peut profiter.
Et il y a aussi le rituel. Alors, on l'évoquait la semaine dernière aussi. Et je me suis demandé, est-ce que les rituels de ces jours de Soukhot, que j'ai évoqué en introduction, la souka et le loulav, permettent par la signification qu'on peut leur donner de se confronter aux défis que nous lancent ces temps inquiets. Commençons, si vous le voulez bien, Rabbin Boissière, par le rite de la souka qui définit un espace de vie qui, selon la tradition, est d'abord un espace de souvenir, et ça c'est important, vous venez de l'évoquer, de souvenir de la libération d'Égypte, mais qui est devenu aussi un symbole de l'hospitalité, une double temporalité. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Et votre commentaire, si je peux me permettre, que vous avez dit sur le Shema Israël est absolument magnifique. Je voulais souligner cette nouveauté d'interprétation et je vous en remercie.
Et merci de cette évocation de la Souka extraordinaire. Moi, je trouve que c'est une des fêtes les plus riches parce que d'abord, elle comporte des rites différents. Il y a le rite de la Souka. Je pense que peut-être on sera amené à parler du rite du Loulav, de ce bouquet. Donc là, c'est les deux symboles les plus forts de la fête. Effectivement, la Souka nous aide vraiment dans la période actuelle. D'abord, la Souka, de manière très simple, elle nous dit qu'on peut être dans la construction. Il s'agit de la construire. La souka. Après les fêtes, je dirais un peu hors sol de Rosh Hashanah et Kippour, on est comme des anges ou des fantômes, je ne sais pas. On redescend sur terre avec la souka. C'est une fête solidement agricole qui rappelle l'errance des Hébreux dans le désert et à travers le secouage des quatre espèces, effectivement une fête agricole donc très très concrète. Plusieurs enseignements fondamentaux. C'est une fête aussi du corps. On récupère notre corps. J'ai appris avec un intérêt que c'était l'une des deux mitzvahs qui ne se faisait pas par quelque chose de précis, mais simplement en entrant dans la souka. En général, une mitzvah, il s'agit de faire un geste précis. Il faut allumer les bougies, il faut séparer la challah, il faut faire tout un... C'est toujours un geste précis. La souka, on y entre et c'est tout. La chef basouka, il s'agit juste d'y être. L'autre mitzvah, comme ça, bon, qui est d'ailleurs controversé, ça
d'y être et de s'asseoir. Hein.
C'est d'y être et de s'asseoir, c'est d'être en Israël. Tout le monde ne considère pas que c'est une mitzvah avec ça, mais ce sont les deux mitzvot particulières où on entre avec son corps totalement. Ça, c'est très intéressant. Et puis, vous l'avez souligné, c'est évidemment l'hospitalité fondamentale, celle d'Abraham qui avait toujours dans sa tente trois côtés et un quatrième ouvert pour le l'oréar, pour l'hôte de passage. Et c'est très intéressant parce que la souka est une façon de faire unité. Au passage, il y a deux manières de faire unité dans la fête de Souka. Celle de la Souka qui rassemble, hein, les sages ont cette image merveilleuse d'un bras, parce que la Souka n'est pas tenue d'avoir quatre côtés, elle est tenue d'en avoir deux et demi, et il compare ça à un geste, bon, c'est difficile à imiter, mais de l'avant-bras avec la main repliée, comme une mère ou un père vis-à-vis de son enfant. Donc il y a quelque chose de très intime comme ça, c'est ça la Souka. Deux murs et demi suffisent pour enserrer en quelque sorte le peuple d'Israël dans une relation protectrice. Et puis, vous l'avez dit, c'est aussi une fête de la confiance, parce qu'il y a ce très beau midrash qui dit que il y a donc des ushpizines, des invités. Chaque jour, les sept jours de la fête de Soukhot est consacré à un invité de marque. Il y a les trois patriarches, il y a Joseph, il y a David, et chaque jour est sous l'auspice, en quelque sorte, de la protection d'un de ces grands personnages d'Israël. Et ici, ça nous dit quelque chose. Ça veut dire que dans le monde, là aussi, c'est une leçon à la fois spirituelle et très pratique, il y a plusieurs sortes de causalités. C'est un peu quelque chose qui oppose d'ailleurs Ésaü et Jacob. Jacob, c'est l'homme des tentes, et Ésaü, c'est celui qui va dans les champs, etc., conquérir. Donc, il y a une causalité du champ, du combat, de l'appréhension, de celui qui est le plus fort ou pas, et tout ça a des conséquences. Et puis, dans un ohel, dans une tente, dans une souka, là, on est soumis à une autre causalité qui est celle de l'influence, ce que les kabbalistes appellent or makif, la lumière indirecte. Il y a des lumières directes, on agit, il y a des réactions, des conséquences, etc. Et la lumière indirecte, c'est de se laisser gagner par les mérites de nos ancêtres, par une mémoire plus vieille que nous, par ces textes que l'on étudie qui viennent d'ailleurs, etc. Et la souka, c'est aussi un temps, comme vous le disiez parfaitement, de la mémoire. C'est une autre causalité, c'est la causalité de la mémoire où on se laisse infuser par les grands personnages. Et il y a quelque chose d'apaisant aussi, et c'est pour ça que soukat shalom, c'est l'expression consacrée, parce que c'est une souka de paix, parce qu'elle réalise l'unité, parce qu'on y entre avec son corps de manière sereine, et parce qu'elle est soumise à un autre espace que celle des événements et de leurs conséquences incessantes et parfois qui nous font diverger. Elle rassemble autour d'une mémoire plus longue que nous-mêmes, et ça nous apaise.
Adonai HaPore Sukkat Shalom Shalom Aleinu Ve'al Kol Amo Yisrael. Shalom, shalom.
souka de shalom, une souka de paix. Vous l'avez cité, Rabbin Boissière, la souka de l'apaisement, que l'on pourrait traduire aussi un abri pour la paix, une expression qui résonne fortement avec votre engagement citoyen, Yann Boissière, au sein de l'association que vous avez créée, Les Voix de la Paix. Comment cette association et son équipe vivent les temps que nous traversons et tentent d'y apporter remède et lumière? Je sais que vous travaillez sur le terrain et sur le temps long, et autant sur la prévention que sur la remédiation, avec un accent porté sur la modification du regard aussi, que l'on porte sur autrui. Pouvez-vous, Rabbin Boissière, nous présenter votre action et la démarche des Voix de la Paix? Qu'est-ce que l'interconvictionnel qui, je sais, est au centre de votre démarche?
Oui, alors ça va être difficile de résumer en quelques phrases, mais cette association, je l'ai fondée en 2015, après un temps justement très très dur pour la société française, un temps d'attentat, avec cette idée de pouvoir reconnecter les différentes communautés d'identité, quelles que soient ces identités, et de les faire dialoguer entre elles, et d'œuvrer à la paix sociale de la communauté nationale. Donc on a structuré une association à trois niveaux d'intervention. Il y a des actions effectivement de terrain, de proximité, avec des jeunes, ou dans les collèges, où on intervient sur le terrain, des actions en entreprise, beaucoup, on le fait un petit peu moins maintenant, mais on a fait beaucoup de choses en entreprise, parce que c'est un temps, enfin le travail, enfin là, on passe un temps éveillé considérable en entreprise, enfin beaucoup de des millions de Français le font, et puis des événements plus symboliques, de réflexion, de colloques, comme le tout dernier organisé le 19 juin dernier à l'Assemblée nationale, autour de la notion de débattre pour que vive la démocratie, avec des intervenants qui nous ont fait entendre des voix très intéressantes et différentes. Donc voilà, effectivement, un effort de jamais plus actuel qu'aujourd'hui, de faire se parler les gens entre eux. Parce qu'il y a une crise du langage majeure, où le langage ne sert plus à se relier, mais sert à invectiver, à juger, voire à flinguer, si vous me passez l'expression. Et donc, pouvoir se parler calmement, pouvoir écouter un autre avis que soi-même, qui ça devient presque un exploit aujourd'hui, c'est ce que je cherche à faire les Voix de la Paix. On a fait beaucoup ces derniers temps, enfin ces deux, trois dernières années, d'interventions dans les collèges, dans les lycées, où on voit qu'effectivement, alors sur des sujets en général liés à la religion, à la laïcité. C'est pas forcément évident d'intervenir à l'école publique, tout ça, mais on le fait toujours, bien sûr, avec l'aval de proviseurs ou de professeurs d'histoire-géographie qui ont à cœur d'aller chercher un petit peu ces sujets délicats. Mais on voit combien c'est nécessaire, parce que d'abord, voilà, les jeunes à qui on est face, 14-15 ans, répètent principalement ce qu'ils entendent dans leur famille. Et puis, bien sûr, l'antisémitisme y est flagrant aussi. Donc c'est intéressant d'y aller avec des spécialistes de l'islam, du judaïsme, des philosophes aussi, et de dialoguer avec ces jeunes. Moi, je dirais que on est extrêmement modeste, parce que ça, c'est une interrogation constante quand on fait de l'action associative. On est conscient de la justesse, en tout cas de la beauté des intentions, et on se demande toujours quel est l'impact extrêmement modeste dans la PAC, parce que dans ce monde compliqué, il semble que seule la force ou la puissance des États ou des empires puisse prévaloir, mais c'est faux. Il faut se désapprendre de cette nouvelle société de la quantification et de l'algorithme et de la data, etc. La valeur, elle est dans la qualité et pas dans la quantité.
Vous avez dit quelque chose de très important, débattre, apprendre à débattre, c'est le fondement même du Talmud, ce qu'on appelle la marloquette. Si on devait résumer le Talmud, peut-être que c'est l'art du débat et la capacité à écouter la parole de l'autre. Vous l'appelez l'interconvictionnel, le terme est un peu complexe, cela mérite de l'expliquer, mais très brièvement.
Historiquement, si on veut, l'association est née d'un prolongement de l'action interreligieuse. J'appartiens à un mouvement, judaïsme, un mouvement qui a toujours eu l'interreligieux au cœur, et d'ailleurs il continue, mais il m'est apparu justement qu'en 2015 qu'il fallait requalifier ce dialogue. Le dialogue interreligieux, c'est absolument formidable, on est une bonne discussion sur Abraham, notre père, entre un pasteur, entre un prêtre et un imam, c'est succès garanti. Sauf que en France, dans une culture volontiers anti-religieuse parfois, ça ne concerne que les concernés, 40% de la population, 60%, les sondages le disent, parfois ce sont des chiffres supérieurs, se disent que le religieux n'oriente ni leur vie, ni ne constitue quelque chose d'important. Donc il me semblait qu'il fallait mettre plus de gens autour de la table, et là où le religieux est clivant, ceux qui croient au ciel, ceux qui n'y croient pas, disait Aragon. La conviction, elle, rassemble tout le monde. Tout le monde a des convictions. Les philosophes ont des convictions, les hommes politiques, on espère en tout cas, ont des convictions. Les institutions en ont, même l'entreprise dit en avoir. Et donc, d'entrer dans une pièce et de dire, chers amis, nous tous qui avons des convictions, mettons-nous autour d'une table pour discuter de certains sujets, à la fois spirituels, sociaux, sociétaux, ce que vous voulez, voire économiques, etc. Là, les gens vous écoutent un peu plus, ils se sentent concernés. Là où le religieux ne met en temps que des religieux entre eux, c'est toujours passionnant à écouter. Mais au bout d'une phrase et demie, il y a déjà plus de 60% de l'assistance qui vous écoute plus ou qui vient pas vous voir parce que c'est le religieux, c'est autre chose qui est extérieur à leur vie. Donc interconvictionnel veut simplement dire baser un dialogue sur la base des convictions, qu'elles soient religieuses ou pas.
Rabbin Boissière, j'ai l'impression que le rituel du loulav est particulièrement adéquat pour comprendre la démarche des voies de la paix.
Oui, c'est pas faux. On pourrait peut-être l'instaurer comme un beau symbole, parce que le loulav, comme le dit la tradition, il s'agit des arba minim, des quatre espèces. Ce sont quatre espèces fondamentalement différentes, aussi bien de par l'odeur, par le fait qu'elles produisent des fruits ou pas. Enfin, il y a toutes les variations logiques de celui qui ne produit pas de fruits n'a pas d'odeur, jusqu'à celui qui produit de l'odeur et a du fruit. Et donc, c'est l'autre manière de réaliser l'unité. La soukha réalise l'unité par englobement du corps, et là, c'est l'unité dans la diversité, qui est tout aussi importante. Ça savoir reconnaître la diversité de l'autre, savoir voir même peut-être qu'il n'y a pas trop de rapports, mais au nom d'une idée du bien commun qui est supérieur à tous, être capable de se rassembler. Ça, c'est la philosophie du loulav complètement essentielle aujourd'hui. Savoir s'écouter, savoir écouter un avis avec lequel on n'est absolument pas d'accord, sans s'énerver, tout en continuant à sourire à l'autre et peut-être à aller partager un bon verre après. Voilà, toutes ces choses qui semblent s'effriter dans la société, oui, le loulav nous dit que on peut vivre ensemble et que c'est même un enrichissement, évidemment, d'être avec des personnes qui ne nous ressemblent pas du tout. Donc, être ensemble, recréer l'unité dans la diversité et être capable d'écouter, y compris des choses divergentes, je pense que c'est un énorme message pour aujourd'hui.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce loulav, qui est le symbole de la diversité, qui est capable de vivre ensemble, on l'agite, d'une certaine manière, dans les quatre coins, au ciel et la terre. C'est-à-dire qu'en fait, on montre au monde, dans ces quatre coins, que c'est possible, que le vivre ensemble dans la diversité, même si l'expression vivre ensemble aujourd'hui est un peu galvaudée, mais je pense que c'est vraiment un message très important. Et alors je me disais que il était aussi important de souligner que la fin de ces temps de rendez-vous de Soukhot se traduit par une nuit d'étude et une lecture renouvelée de la Torah qui recommence au premier verset, par ce verset célèbre, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Une liturgie qui insiste sur la place de l'étude, de la lecture et de l'interprétation. La semaine dernière, j'ai cité Paul Ricoeur qui faisait la distinction entre éthique et morale de la façon suivante. Ricoeur disait que l'éthique, c'est le but d'une action, alors que la morale, ce sont les outils et les chemins qui permettent de réaliser le but que l'on s'est donné. Et j'avais cité le livre d'Edmond Flegg, Salomon raconté par les sages, qui suggérait cette formule. Mon éthique, c'est la paix. Ma morale, c'est l'étude. Comment, Rabbin Boissière, envisagez-vous cette étude à la fois dans sa forme et son contenu?
Une grande question, très belle citation de Ricoeur. Enfin, c'est intéressant parce que moi, précisément, je ne fais pas de différence entre morale et éthique. Ce sont des mots que j'emploie indifféremment, mais il en donne un très beau déploiement. Oui.
Lui-même était parti de la constatation que personne ne fait de distinction entre les deux et que les mots sont interchangeables.
Oui, oui.
Donc un jour, il s'est dit... parce qu'en fait, il y a une anecdote que j'aime à raconter. Il sort d'un cours à la Sorbonne. Et il voit une première librairie, et il voit un livre, il voit l'éthique de Spinoza. Et puis il continue, une autre librairie, la morale de Brunswick. Et après, il trouve un livre, la morale de l'éthique, et ensuite un livre sur l'éthique de la morale. Donc il s'est dit, il faut quand même distinguer entre les mots. Il sait que c'est simplement un choix, mais je crois que c'est complètement utile. D'autres philosophes font une autre distinction, mais je voulais vous interroger par rapport à cette distinction.
Sur l'étude, l'étude c'est vaste, mais moi je dirais que ce qui me fascine dans l'étude, et c'est pour ça que j'aime à la pratiquer, c'est justement l'apprentissage du renouvellement de l'ancien. C'est-à-dire, voilà ces vieux textes, bon, qu'on connaît quand même un petit peu par cœur, enfin pour certains d'entre eux, et nous voilà devant l'obligation ou le plaisir de les lire de manière nouvelle. Bon, c'est pas peut-être plus vrai encore pour le rabbin qui chaque semaine doit se creuser un peu la tête pour commenter la paracha de la semaine alors qu'il l'a déjà fait des années. Et ça marche, évidemment, ça marche à chaque instant. Donc c'est vraiment la capacité de voir le nouveau dans l'ancien. C'est ça qui me paraît fondamental pour notre monde d'aujourd'hui. Et je dirais même aussi dans une autre distinction, dans un autre débat entre spiritualité et religion. Entendu qu'une religion sans spiritualité, c'est quelque chose de sec qui n'a aucun intérêt. Mais les spiritualités seules, dont on nous rebat parfois un peu les oreilles complaisamment, il leur manque quelque chose qui appartient aux religions et qu'en tout cas, à de manière très forte, le jeûne, ce sont des textes de référence qui sont fixes. Le signifiant. Eh bien, justement, la grande invention du judaïsme, c'est d'avoir la sagesse de ne jamais changer le signifiant pour s'obliger à trouver des signifiés nouveaux, ce qu'on appelle le chidouche, la capacité de renouveler, mais non pas en changeant les textes au gré de l'humeur du jour, parce que là, il y a un autre problème qui se pose. Si on change en fonction des générations les textes, en fait, au bout de 3 générations, on ne transmet plus rien. Il n'y a plus de lien entre la génération 1 et la génération 3. Donc, la puissance, c'est de garder ces mêmes vieux textes, mais par contre, de s'obliger à en avoir une lecture nouvelle profondément revivifiante. Pour moi, vraiment, c'est ça le cœur même de l'étude, trouver du nouveau dans l'ancien et se régénérer par soi-même et du coup être à la fois pertinent pour un monde qui ne cesse de changer et en même temps d'être dans la continuité de la mémoire. C'est ça l'alliance des choses fondamentales qu'il y a dans le judaïsme. Garder ce fil directeur de la mémoire du fond des âges et en même temps s'adapter de manière permanente à un monde qui bouge.
Merci Yann Boissière pour cette très belle et riche conversation. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Le devoir d'espérance face à la crise spirituelle. Et je renvoie aussi à 2 sites. Tout d'abord, votre site qui s'appelle yannboissière.com et le site des Voix de la Paix où les auditeurs pourront dans ces 2 sites découvrir les différentes actions que vous proposez et l'ensemble des articles et des réflexions que vous menez. Merci encore, Rabbin Yann Boissière.
Merci beaucoup.
C'était Talmudic, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Grégory Wallon, à la réalisation Alexandra Malka. Vous trouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture à l'onglet Talmudic. Kol Touv, Le Hitraot, au revoir, bon rendez-vous de Soukhot et bonne nuit d'études et à la semaine prochaine.